Bonjour Emmanuel Cos.
Bonjour.
Par quoi avez-vous envie de commencer ce matin, les régionales ou la COP21?
Mon cœur balance, mais j'ai regardé longtemps cette nuit les tweets pour avoir des nouvelles de ce qui se passait au Bourget. Et voilà, je peux vous dire que je suis quand même très en alerte sur ce qui se passe à la COP et j'espère vraiment qu'on va arriver à un accord.
Alors, il n'y a pas d'accord, justement. On l'attendait en principe pour aujourd'hui. C'est normalement le dernier jour aujourd'hui de la grande conférence climat. Il reste des points de désaccord. Laurent Fabius, qui préside la COP, l'a reconnu. On est dans une situation finalement relativement paradoxale, puisque on affiche désormais un objectif plus ambitieux que
Absolument.
Prévu, 1,5 degré maximum de réchauffement, mais les exigences en termes de calendrier, de contraintes, semblent en revanche à la baisse.
En gros, ce qui bloque, c'est que je crois qu'on arrive maintenant à fixer un objectif très très serré. Vous l'avez dit, limiter vraiment le dérèglement climatique, mais les États ne veulent pas d'un contrôle. En fait, à 5 ans, nous, ce que nous voulions et ce que la France a porté depuis un moment, d'ailleurs la Chine était assez favorable à cela, c'est que dès 2020, on puisse demander aux États de contrôler ce qu'ils auraient fait dans les 5 prochaines années et donc d'aller encore plus loin. Ils sont là sur 10 ans et puis il y a des questions qui ne sont pas réglées, qui sont en fait les mêmes depuis des mois, qui sont la question du financement à
ce qu'on appelle la différenciation.
Exactement, aux pays les plus
entre
en
pays riches notamment et pays émergents. Les émergents, Chine, Inde disent aux autres, enfin aux riches, vous avez pollué, en gros laissez-nous polluer pour nous développer. Donc ça détermine les efforts financiers. Sur quelle ligne vous êtes sur cette question-là?
Tout le monde doit faire des efforts, mais ce qui est certain, c'est que les pays du G20 ont des efforts bien plus importants à faire que les autres. Et ils doivent contribuer de manière financière, mais aussi d'un point de vue des technologies et des transferts qui peuvent amener dans les pays qu'on a besoin assez vite. On va dire les choses franchement, il reste en gros 1 à 2 journées de négociation, puisque la COP peut se prolonger tant que le président de la COP le souhaitera. Et en même temps, les États savent très bien, moi j'étais au Bourget à plusieurs reprises la semaine dernière, les États savent très bien qu'ils peuvent plus dérober à leurs responsabilités. Donc on est voilà dans un moment clé de la négociation où il faut que la tension soit à son paroxysme pour que justement chacun puisse faire des pas nécessaires. Mais ce qui est certain aussi, c'est qu'on peut pas faire un accord à tout prix.
Il vaut mieux pas d'accord qu'un mauvais accord?
Non, je pense qu'il vaut mieux travailler à avoir un accord. Mais la déclaration hier de Laurent Fabius, c'était très clair. Il ne lâchera pas sur un certain nombre de points. Donc il n'est pas prêt à brader un accord uniquement pour avoir une belle communication samedi. Il veut sortir de là avec des exigences très fortes. Et c'est aussi pour ça que tout le monde est encore en train de négocier, pour tout vous dire. Parce qu'il a réussi à garder le fait qu'il y a un intérêt pour tout le monde à encore négocier. Donc je pense qu'il faut travailler. Il faut qu'on travaille, mais il faut aussi que les États qui ont le plus de capacité à s'adapter, c'est-à-dire les plus riches, fassent aussi les gestes nécessaires. Aujourd'hui, notamment l'Union européenne, les États-Unis, la Russie, mais aussi le Brésil, l'Inde et la Chine, qui ont les moyens financiers d'évoluer, doivent être vraiment les leaders de cette résolution.
Les régionales, vous avez fait alliance avec les socialistes pour le second tour en Île-de-France. Un accord programmatique est-il explicitement précisé? Vous n'êtes pas échaudé par les accords programmatiques avec les socialistes?
Mais dans les régions, non. Il se trouve qu'en 2010, dans l'ensemble des régions, nous avions construit des majorités avec les socialistes et le Front de gauche. Et dans l'ensemble des régions, ça s'est bien passé, sauf dans une. C'était la Bretagne, où d'ores et déjà...
Là, il n'y en a pas.
Le candidat... Non, mais déjà en 2010, le candidat de Bretagne ne souhaitait pas s'allier avec des écologistes. Et justement, dans ces régions, on a pu travailler ensemble parce qu'on s'est respecté et qu'on s'est fait confiance. Et que ces accords programmatiques ont été tenus et ont permis d'apporter des réponses extrêmement concrètes aux questions de transport, d'emploi ou de logement. C'est pour ça que nous avons pu le refaire, y compris dimanche dernier, et que moi je suis très fière d'aller au-devant des électeurs avec cet accord et cette ambition-là pour la région.
Mais si vous vous respectez, vous faites confiance, pourquoi vous ne le faites pas avant alors? Avant le premier tour, je veux dire.
Pourquoi surtout ça ne se fait pas
au niveau national. Oui, mais ça c'était la question suivante.
c'est surtout ça le sujet. Mais tout simplement parce qu'au premier tour, il s'agissait aussi de porter nos idées. Nous, on a voulu défendre, en tant qu'écologistes, des questions sur la qualité de vie, la pollution de l'air, le développement des transports en commun. Je peux vous dire, s'il n'y avait pas eu liste écologie, ce thème-là n'aurait pas été porté comme nous l'avons fait. Et c'est aussi comme ça qu'on a réussi à mettre, dans un accord de second tour, notre vision de l'écologie, du développement dans cette région, la vision du Front de gauche sur la création d'emplois dans les services publics de proximité, la vision du Parti Socialiste sur les questions d'égalité. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir un accord qui amène une diversité de propositions et une ambition, je le redis. Ce qui se passe dimanche dans les élections, ce n'est pas de savoir ce qu'on va faire à la présidentielle dans un an et demi. C'est de savoir qui va s'occuper de notre quotidien pendant 6 ans. Et c'est aussi pour cela, mais je l'ai dit à votre antenne il y a une semaine,
qu'il
faut que tout le monde se mobilise pour aller voter. Ça prend 5 minutes de voter. Sauf que votre vote, il permet de savoir qui demain va s'occuper de votre formation, de votre emploi, mais aussi de vos questions de logement ou de mobilité. Et c'est extrêmement important que les Français prennent conscience que leur vie est entre les mains des élus et qu'il faut absolument qu'ils se mobilisent pour ces élections.
Alors, la réponse à votre propre question, pourquoi ce qui est possible au niveau régional ne l'est pas au plan national ?
Je pense que c'est surtout une question à poser à celles et ceux qui dirigent le national et qui, à un moment, n'ont pas voulu tenir des engagements qu'ils avaient pris et avec nous, mais aussi devant les Français.
Vous n'avez pas l'impression d'avoir la moindre responsabilité ?
Vous savez, j'ai participé à la construction en 2011 d'une histoire, notamment d'un programme avec les socialistes et d'une volonté de construire la victoire de François Hollande. J'y ai participé, j'y ai compris négocier sur ces accords-là et après nous nous sommes tenus. Un accord, c'est un compromis. C'est exactement ce qu'on fait à la COP. Chacun fait un pas pour avoir un but commun. Et la question, c'est pour cet accord étienne, il faut que chacun ensuite avance de la même manière. Moi, j'ai vécu, comme beaucoup de Français, dès 2012, des grandes difficultés, notamment sur des sujets écologistes. Prenons des sujets assez emblématiques. Pollution de l'air, diesel, Fessenheim, fermeture de la centrale nucléaire. Loi sur la transition énergétique est une loi qui est arrivée, mais qui a quand même mis 3 ans à arriver, alors que c'était très difficile. C'est ce qui explique, à mon avis, des relations qui se sont tendues.
Est-ce que vous vous attendez à un changement d'orientation de la politique du gouvernement après les régionales, un remaniement et peut-être donc au retour des Verts au gouvernement ?
J'espère surtout que quand à peu près un peu moins d'un tiers des Français se prononcent pour un parti d'extrême droite, comme ils l'avaient fait d'ailleurs aux européennes en juin 2014, j'espère que cela va créer un sursaut et dans le gouvernement et dans l'ensemble des partis républicains, qu'ils soient de gauche ou de droite. On ne peut pas continuer comme si de rien n'était. On a un tiers des Français qui pensent que le Front National est une solution à leurs difficultés, qui pensent que la politique qu'ils prônent est une réponse à leurs difficultés, notamment d'emploi et pour leur avenir. Ça exige un sursaut. Ça exige un sursaut, y compris de nous, de notre formation et des autres. Il faut qu'on retourne d'une part au contact de ces Français, mais surtout qu'on change, oui, de politique. Vous avez des gens qui se sentent déclassés, qui se sentent éloignés de tout. Il faut qu'on réponde à ces personnes-là qui, dans ce pays, dans notre pays, se sentent extrêmement mal. Et quand vous regardez l'Île-de-France, vous voyez que les scores du Front National sont par exemple les plus forts dans les zones qui sont les plus éloignées des services publics, des transports et de l'emploi.
La droite et le centre sont unanimes à condamner les propos de Claude Barthelone, tête de liste en Île-de-France, les propos sur Valérie Pécresse qu'il accuse de défendre la race blanche dans sa campagne. Est-ce qu'il est allé trop loin, Claude Barthelone ?
Vous savez, je vois surtout une animosité extrêmement forte. J'ai encore vu des lettres de maires républicains, notamment le maire de Juvisy qui a encore insulté Claude Barthelone. Je crois qu'il est temps que cette campagne s'arrête et surtout qu'on arrête de prendre en otage les franciliens. Vous savez, actuellement, en Seine-Saint-Denis, il y a une affiche qui est collée par les partisans de Valérie Pécresse qui est de dire « L'Île-de-France ne doit pas être la Seine-Saint-Denis ». Comme si aujourd'hui, ce département, qui est fort de sa diversité, d'une culture extrêmement importante, d'une population qui est diverse, était un problème. Et c'est aussi pour ça que moi, je me bats pour que dimanche, ça soit la majorité de la gauche et des écologistes.
Donc rien à redire sur le propos de
Je n'ai rien à redire là-dessus. Nadine Morano a eu des propos qui ont été très peu condamné à l'époque, et il faut aussi
c'est
rappeler.
Quand même eu un joli tollé.
Et je vais vous dire,
on lui a retiré sa tête.
Et je vais
de
vous dire quelque chose. Lundi soir, la première sortie de Valérie Pécresse a été de reprendre les propos du candidat Front National concernant mes positions sur l'accueil des réfugiés en France. Je crois que ça dit tout du positionnement de cette candidate ce matin.
Merci Emmanuel Cosse. Bonne journée.
Merci.